important stock de contraceptifs entreposé en Belgique doit être détruit en France. Imposante cargaison toujours introuvable ou presque. Enquête dans un instant de Marion Ferrer. 29 milliards de dollars, c'est le salaire d'Elon Musk que vient de lui accorder Tesla, ce qui risque de déplaire encore et toujours à la justice américaine. Correspondance de Washington. De 24 à 15 milliards, c'est la réduction de la dette d'Altis, rendue possible après que le tribunal des affaires économiques de Paris a validé le plan de sauvegarde accélérée de la maison mère de SFR. Explication de Valentin Gris. Enfin, nous serons en ligne de Beyrouth où 5 ans après l'explosion du port, une cérémonie du souvenir prend fin. Les familles des victimes attendent la vérité et la fin d'une impunité. C'est le planning familial américain qui a donné l'alerte, relayée par le planning familial français, autre structure agissante, la France Insoumise. Il est donc question d'un stock de pilules abortives, de stérilets et d'implants de fabrication américaine entreposés en Belgique dans le cadre de la distribution de l'USAID, stock voué à la destruction. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
On va y voir clair grâce à vos explications. À quand remonte la première alerte, Marion ?
Début juillet, lorsque l'Agence de développement américaine a cessé ses activités démantelées par l'administration Trump. À elle seule, l'USAID représentait en 2024 40% de l'aide humanitaire américaine. Washington, de son côté, a intensifié la politique dite de Mexico. Ce texte interdit aux ONG étrangères recevant des fonds américains de proposer ou de promouvoir l'avortement. Le stock doit donc être détruit. Celui-ci est en Belgique, à Guil, comporte 2 millions de plaquettes de pilules, 9 millions d'implants et 50 000 stérilets. Sarah Durocher est présidente du planning familial.
On parle de contraceptifs qui ont des dates de péremption de 2027 à 2031. C'est important de le dire parce que, en fait, de détruire des contraceptifs périmés, c'est une chose. Mais par contre, de participer à la destruction de moyens de contraception qui pourraient sauver des milliers de vies, c'est incompréhensible.
Mais depuis, Mathieu, c'est le flou.
Alors Marion, il aurait été convenu de détruire, on l'a dit, ce stock en France, c'est bien ça?
Car la France dispose des centres d'incinération qualifiés pour gérer un tel stock, mais impossible de savoir lequel va procéder. Les groupes Veolia et Suez réfutent toute implication et depuis 10 jours, le planning familial tente de remonter le fil.
D'après des sources sur place, des camions sont déjà partis en destination de la France depuis mardi dernier. Aujourd'hui, il y a un silence radio de la part du gouvernement français sur ce qui est en train de se passer. En tout cas, le fait d'avoir détruit ou de détruire dans un futur très proche ces contraceptifs, c'est rendre la France complice.
Les écologistes déplorent l'opacité des autorités. Quant à la France Insoumise, elle a déposé hier une résolution à l'Assemblée nationale afin de réquisitionner ce stock. Adrien Clouet est député de Haute-Garonne.
Le Code de la santé publique, je le rappelle, nous autorise, pour des questions sanitaires urgentes, vitales, nous autorise à réquisitionner tout bien et tout service nécessaire. Et qu'un pays comme la France, qui a mis dans sa constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse, ne peut pas laisser ne pas être complice de la privation du droit au contrôle des naissances pour des centaines de millions de femmes.
Pour rappel, une femme meurt toutes les 9 minutes dans le monde suite à un avortement clandestin et non sécurisé.
Merci à vous, Marion Ferrer. C'est un feuillet supplémentaire venu épaissir le dossier de la bataille judiciaire dont fait l'objet la rémunération de l'ex-meilleur ami de Donald Trump, Elon Musk, qui vient d'empocher la somme de 29 milliards de dollars via un mécanisme que la justice du Delaware a pourtant invalidé début 2024. Nous sommes, comme convenu, en ligne de Washington avec Sandrine Etoandek. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Comment en arrive-t-on à une telle somme ?
Alors concrètement, Elon Musk va pouvoir acheter 96 millions d'actions Tesla. Elles sont valorisées sur le marché actuellement à $300. C'est ce qui donne la somme astronomique de 29 milliards de dollars. Sauf qu'Elon Musk, lui, a eu l'autorisation d'acheter ses actions à un montant plus que bradé, hein, de $23.34, soit le prix d'exercice de l'action Tesla en 2018. Cette année-là, vous l'avez rappelé, le conseil d'administration de Tesla avait validé un plan de rémunération de 56 milliards de dollars, un montant jugé excessif et annulé par une juge de l'État du Delaware après la plainte d'un actionnaire de Tesla. Mi-juin 2024, ce méga plan de rémunération est de nouveau validé par les actionnaires de Tesla et en décembre, de nouveau rejeté par la justice. Tesla a fait appel de la décision et depuis a mis en place un comité spécial chargé d'étudier le dossier de la rémunération d'Elon Musk. Et c'est ce comité qui, avec le conseil d'administration, a donc décidé d'octroyer ce qu'ils appellent une récompense intérimaire, manière de contourner la justice en attendant sa décision, car pour Tesla, je cite, « retenir Elon est plus important que jamais auparavant ». Musk, qui a menacé plusieurs fois de claquer la porte, qui possède 13% des actions de l'entreprise et qui en veut plus, En juillet, il avait même déclaré « Mon contrôle de Tesla doit être suffisant pour que ça aille dans la bonne direction, mais pas au point où je ne pourrai pas être viré si je deviens fou. »
Et oui, Sandrine, ajoutons que Tesla, suite à l'implication politique d'Elon Musk, a connu bien des déboires ces derniers mois.
Oui, longtemps tête de file des voitures électriques, Tesla connaît des difficultés. L'entreprise a annoncé fin juillet une baisse de 16% de son bénéfice net au deuxième trimestre, un repli des ventes dans un contexte de grande concurrence. Et puis, vous l'avez rappelé, l'implication d'Elon Musk auprès de Donald Trump, dont il a généreusement financé la campagne présidentielle, fait partie du gouvernement avant un clash retentissant, a nuit aussi à Tesla en termes d'image, et ça a aussi pesé sur les ventes.
Sandrine Etoandeg, correspondante de Radio France à Washington. Autre interface entre la justice et un milliardaire. Le tribunal des affaires économiques de Paris a validé la procédure de sauvegarde accélérée d'Altice, arrachée après un deal avec ses prêteurs. Le groupe de Patrick Drahi, l'homme d'affaires aux 5 nationalités, va ainsi pouvoir réduire sa lourde dette de 24 à 15 milliards d'euros. Bonsoir Valentin Gris.
Bonsoir Mathieu.
Valentin, Patrick Drahi a maintenant les mains libres et va pouvoir avancer sur une vente de SFR qui ne serait pas sans conséquences sur l'emploi, notamment.
Oui, et pour le comprendre, il faut rembobiner au 25 février dernier. Patrick Drahi se met d'accord avec ses créanciers, des financiers américains, BlackRock, PIMCO, Fidelity. Les deux parties peuvent être satisfaites. Patrick Drahi réduit l'endettement d'Altice de 24 à 15 milliards d'euros. Il se donne de l'air et n'a même pas besoin de débourser de l'argent personnel. Il doit certes verser 2 milliards cash, mais il les a, lui qui vient de vendre BFM et RMC. Ce que concède en réalité l'homme d'affaires, ce sont des parts dans SFR, 45% de son capital. Et c'est cet échange, dette contre capital, que le tribunal des activités économiques de Paris vient d'entériner.
Eh bien, Valentin Gris, cette fois, il va falloir aller un peu plus loin dans le devenir de SFR.
Oui, car cet échange ouvre la voie à la vente de SFR qui permettrait désormais à toutes les parties de s'y retrouver. Patrick Drahi, comme ses prêteurs, qui sont les nouveaux copropriétaires de SFR. Certes, l'opérateur a perdu 2 millions de clients en 2 ans, ce qui lui vaut chez ses rivaux le surnom affectueux de donneur universel. Mais les syndicats soulignent qu'il n'est pas endetté et ne fait que subir la stratégie d'endettement d'Altice, la maison mère. Leur crainte, c'est une vente à la découpe qui supprimerait des emplois par milliers. Zia Gulreis est le secrétaire général du CSE d'Altice, élu à l'UNSA.
Les interviews des différents dirigeants de nos concurrents va dans le sens d'une disparition de SFR dans un avenir prochain. Ils veulent se partager SFR pour qu'il ne reste plus que 3 opérateurs.
Le tribunal de Paris ouvre la voie à cette consolidation, expliquant ne statuer que sur la viabilité économique d'Altice et rien d'autre. Les syndicats et le CSE vont donc faire appel.
Merci à vous, Valentin Gris. Une catastrophe devenue le symbole de l'impunité. C'était, il y a 5 ans, jour pour jour, des tonnes de nitrate d'ammonium entreposées sans précaution prennent feu sur le port de Beyrouth. Plus de 220 morts et 6500 blessés. L'enquête sur cette gigantesque explosion n'est toujours pas bouclée. Alors, comme les années précédentes, en ce jour de deuil national, la foule se recueille tout en réclamant justice. Arthur Saradin, vous êtes en direct du port de Beyrouth. Bonsoir.
Bonsoir.
Arthur, ils sont encore des centaines réunis devant le lieu de l'explosion.
Oui, et nous sommes en ce moment devant les silos du port. On le voit, cet édifice gigantesque qui est devenu le symbole malgré lui de la catastrophe et qui se fragilise, s'effondre par endroits avec le temps qui passe. Autour, on voit un peu la même foule chaque année, mais de moins en moins nombreuse. Des visages connus des mouvements de contestation au Liban. Toujours les familles des victimes aussi qui se réunissent en noir. Devant moi, elles sont en train de brandir les portraits de leurs enfants, ceux qui ont été tués le 4 août 2020 par l'explosion qui avait fait plus de 200 victimes dans la capitale. On retrouve, et certains nous le disent, les mêmes pancartes qui sont ressorties année après année. On en voit une à ma droite écrite « Mon gouvernement est coupable » parmi d'autres slogans pour demander justice. Demander qu'une enquête soit menée sans pression politique car celle-ci est toujours au point mort. Le juge Tarek Bital, qui est à la charge de ce dossier, est victime de pression politique et des recours abusifs de plusieurs ministres et parlementaires accusés de négligence qui sont aujourd'hui la cible des investigations. Une justice qui patine donc depuis 2020 et un combat qui se répète pour les Libanais présents aujourd'hui.
Merci à vous Arthur Saradin en direct de Beyrouth. Et oui, nous ne demandons rien de plus que la vérité, dit l'association des familles des victimes. On est encore loin des indemnisations promises par les autorités au Liban, à tout le moins. En effet, une famille de victimes franco-libanaise vient d'apprendre qu'elle allait être indemnisée par la France. L'un des fils de cette famille, Malek Meyo, 26 ans aujourd'hui, a été gravement blessé lors de l'explosion. Solène Delarquier l'a rencontré à Paris, où il vit aujourd'hui.
Quand on voit Malek Meyo s'installer en terrasse d'un café, on ne se doute pas à quel point marcher lui coûte.
Parce que je fais des efforts monstres tout le temps. Depuis que j'ai eu l'explosion, il n'y a pas un jour où je ne fais pas des exercices chez moi pour que ça aille mieux.
Le jeune homme de 26 ans décrit le handicap avec lequel il vit depuis maintenant 5 ans.
J'ai perdu le nerf sciatique poplité externe, donc c'est lui qui relève le pied. Donc quand je marche, je trébuche. J'ai des douleurs fantômes et donc ça me fait aussi d'autres douleurs au niveau de la cuisse, donc toute la jambe droite.
Le jour de l'accident, Malek, alors étudiant à Paris, rend visite à ses parents à Beyrouth. Ils sont sur la véranda de l'appartement familial à 2 km du port quand le souffle de l'explosion les atteint. Savoir que sa famille va pouvoir toucher une indemnisation de la part de l'État français, c'est une étape pour lui.
Dans mon cas, avec ma famille, maintenant, on fait office de jurisprudence pour les autres.
Mais il a du mal à se sentir réellement soulagé.
Même si on m'indemnise aujourd'hui, j'ai 26 ans, je dois vivre ma vie dans cet état-là. Je doute qu'il y ait une indemnisation qui suffise à ça, quoi.
Si le franco-libanais est indemnisé aujourd'hui, c'est parce que l'enquête montre qu'il y a eu faute dans le stockage de nitrate sur le port de Beyrouth, mais la justice n'a pas encore désigné les responsables.
J'ai besoin de justice, j'ai besoin de savoir qu'il y a une fin et les gens sont punis pour ce qu'ils ont fait. Sinon, ça voudrait dire que demain, il y a une autre explosion, ça passera. Et non, rien que pour moi, mais aussi pour les autres.
C'est pourquoi il s'oblige, 5 ans plus tard, à continuer à prendre la parole en France, où une instruction est également en cours.
Reportage de Solène Delarquier. Au moins 40 Palestiniens tués aujourd'hui par des tirs et des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Israël n'a pas commenté dans l'immédiat ce bilan livré par la défense civile de l'enclave. Israël qui veut mettre la question des otages retenus à Gaza au centre de l'agenda international. Ce sont les termes du ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar. À la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet, hier déjà, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a sollicité l'aide du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. L'ONG se dit prête à y répondre. Christian Cardon est son porte-parole.
On est prêt. Le CICR, dès les premières heures de ce conflit, l'a rappelé publiquement à maintes reprises. On est prêt à pouvoir avoir accès aux personnes qui sont retenues otages dans la bande de Gaza. Et donc, évidemment, que cette requête qui est venue une fois encore hier, elle est très claire. Nous, on renvoie évidemment aux Israéliens et aussi au Hamas de se décider, de se mettre d'accord. Et à ce moment-là, le CICR est tout à fait prêt. On a des camions, on a des denrées qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir être distribué. C'est urgent. La situation semble catastrophique, au même titre qu'elle est catastrophique pour l'ensemble des Gazaouis aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on assiste peut-être à un momentum et que là, enfin, il y aura une possibilité pour les humanitaires de faire notre travail ? Mais on l'espère vivement, il faut agir au plus vite.
Le porte-parole du CICR, Christian Cardon, propos recueillis par Justine Leblond. Il est 18h12, vous écoutez le journal de France Culture. En plein cœur de l'été, fuir la censure. Le Premier ministre François Bayrou imaginait passer sous les radars. Sauf que, selon le site d'information Politico, François Bayrou a reporté, la semaine dernière, la publication d'un décret de programmation pluriannuelle de l'énergie, autrement dit le PPE. Explication Antoine Maret.
Jeudi dernier, le ministère chargé de l'industrie et de l'énergie envoyait un message à plusieurs parlementaires et professionnels du secteur de l'énergie annonçant, sur décision du Premier ministre, la publication de la PPE dès le lendemain matin. Le lendemain, un communiqué de presse détaillant le contenu du texte circulait sur les réseaux sociaux. Sauf que 3 jours plus tard, aucune trace d'un quelconque décret. Et quand on interroge le ministère sur ce communiqué de presse, la réponse est pour le moins étrange. Il n'y a eu aucune communication officielle sur la PPE, mais le même ministère se garde bien pour autant de parler d'un faux document. D'où l'hypothèse selon laquelle ce communiqué serait sorti un peu précipitamment avant l'aval de Matignon. Or, François Bayrou joue peut-être dans cette histoire la survie de son gouvernement. Le Rassemblement national agite la menace de la censure en cas de publication de décret cet été. Et quant aux autres groupes de l'Assemblée, en dehors des macronistes, ils réclament de pouvoir terminer l'examen d'une proposition de loi du sénateur LR Daniel Gremillet, qui a comme sujet, justement, la politique énergétique. La proposition de loi a été adoptée au Sénat, avec modification, il y a un mois, en deuxième lecture. Le texte doit être réexaminé à la fin du mois de septembre par l'Assemblée, avant une éventuelle commission mixte paritaire attendue à la mi-octobre. Publier un décret de PPE cet été, cela reviendrait à contourner le Parlement et ce serait risqué pour François Bayrou.
Antoine Maret, quelques mots de la météo de demain mardi. Perturbation très affaiblie et ciel nuageux de la Charente à l'ouest de la Lorraine en matinée. À Montbéliard dans le Doubs, il fera entre 12 et 25 degrés. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique Ruben Carmazina.